Guerre et paix. Première partie, chapitre 4, scène 4. Pierre buvait et mangeait beaucoup, avec son avidité habituelle. Mais ce jour-là, silencieux, morose et abattu, il regardait d'un air distrait autour de lui et semblait ne rien entendre. Rien qu'à le voir ainsi préoccupé, ses amis devinaient sans peine qu'il était absorbé par quelque question accablante et insoluble. Cette question, qui tourmentait à la fois son cœur et son esprit, c'était les allusions de la princesse Catherine, sa cousine, au sujet de l'intimité de Dologov avec sa femme. Le matin même, il avait reçu une lettre anonyme, écrite sur le ton de grossière raillerie, propre à ce genre de lettres, dans laquelle on lui disait que ses lunettes lui étaient bien inutiles, puisque la liaison de sa femme et de Dologov n'était un mystère que pour lui seul. Il n'avait ajouté foi ni à la lettre, ni aux allusions de sa cousine. Mais la vue de Dologov, assis en face de lui, lui causait un invincible malaise. Chaque fois que ses beaux yeux impudents rencontraient ceux de Pierre, il faisait naître dans l'âme de ce dernier un sentiment effroyable, monstrueux, et il se détournait brusquement. En se rappelant le passé que l'on prêtait à Hélène et ses relations actuelles avec Dologov, il comprenait qu'il aurait pu y avoir quelque chose de vrai dans la lettre anonyme s'il ne s'était pas agi de sa femme. Pierre se rappela involontairement la première visite de Dologov et comment, en souvenir de leurs anciennes folies, il lui avait prêté de l'argent, comment il l'avait installé dans sa maison, comment Hélène, sans se départir de son éternel sourire, lui avait exprimé son ennui de cet arrangement, et comment Dologov, qui ne cessait de lui vanter avec cynisme la beauté de sa femme, ne les avait plus quittés d'une semelle depuis ce jour-là.
« Il est très beau, c'est vrai, »
se disait Pierre.
« Et je sais qu'il éprouverait une jouissance toute particulière à déshonorer mon nom, à se jouer de moi, précisément à cause des services que je lui ai rendus. Oui, je comprends combien il trouverait piquant de me tromper de la sorte, mais je n'y crois pas, je n'ai pas le droit d'y croire. »
Il avait souvent été frappé par l'expression méchante et la figure de Dologov, comme le jour où il avait jeté à l'eau l'ours et l'officier de police, ou bien lorsqu'il provoquait quelqu'un sans raison, ou qu'il tuait d'un coup de pistolet le cheval d'un izvostchik. Et aujourd'hui, lorsque leurs yeux se rencontraient, il retrouvait dans son regard cette même expression.
« Oui, c'est un bretteur. Tuer un homme est le dernier de ses soucis. Il se dit que chacun a peur de lui, et moi le tout premier. Et cela doit lui faire plaisir. Et au fond, c'est vrai, j'ai peur de lui. »
Ainsi pensait Pierre, pendant que Rostov s'entretenait gaiement avec ses deux amis, Denisov et Dologov, dont l'un était un brave hussard et l'autre un franc vaurien. Leur bruyant trio faisait un singulier contraste avec la personne massive, sérieuse et préoccupée de Pierre, pour lequel Rostov, d'ailleurs, n'avait pas de sympathie. Primo, c'était un Pékin millionnaire, le mari d'une beauté à la mode et une poule mouillée, trois crimes irrémissibles à ses yeux de hussard. Secundo, Pierre, distrait et pensif, ne lui avait pas rendu son salut. Et lorsqu'il avait porté la santé de l'empereur, abîmé dans ses réflexions, Pierre ne s'était pas levé.
« Eh bien, et vous ?»
lui cria Rostov, irrité de plus en plus.
« N'entendez-vous pas ? À la santé de l'empereur !»
Pierre soupira, se leva avec résignation, vida son verre, et quand tout le monde fut rassis, il s'adressa à Rostov avec son beau sourire.
« Tiens, et moi qui ne vous avais pas reconnu ?»
Rostov, qui s'égosillait à griller « Hourra », n'entendit même pas.
« Eh bien, tu ne renouvelles pas connaissance ?»
dit Dologov.
« Que le bon Dieu le bénisse, cet imbécile !»
répondit Rostov.
« Il faut soigner les maris des jolies femmes !»
lui dit à demi-voix Denisov. Pierre devinait qu'il parlait de lui, mais il ne pouvait les entendre. Cependant, il rougit et se détourna.
Et maintenant, buvons à la santé des jolies femmes. »
dit Dologoff d'un air moitié sérieux et moitié souriant.
« Petrusha, à la santé des jolies femmes et de leurs amants. »
Pierre, les yeux baissés, buvait sans regarder Dologoff et sans lui répondre. En ce moment, le laquais qui distribuait la cantate en remit un exemplaire à Pierre, comme étant un des principaux membres du club. Il allait le prendre lorsque Dologoff se pencha et lui arracha la feuille pour la lire. Pierre releva la tête et, entraîné par un mouvement irrésistible de colère, lui cria de toute sa force.
« Je vous le défends !»
À ces mots, en voyant à qui il s'adressait, Nesvitsky et son voisin de droite, effrayés, cherchèrent à le calmer, tandis que Dologoff, fixant sur lui ses yeux brillants et froids comme l'acier, lui disait, en accentuant chaque syllabe,
« Je la garde. »
Pâle, les lèvres tremblantes, Pierre la lui arracha des mains.
« Vous êtes un misérable. Vous m'en rendrez raison. »
Il se leva de table et comprit tout à coup que la question de l'innocence de sa femme, cette question qui le torturait depuis 24 heures, était tranchée sans retour. Il la détestait maintenant et sentait que tout était rompu avec elle à jamais. Malgré les instances de Denisov, Rostov consentit à servir de témoin à Dologoff. Et le dîner terminé, il discuta avec Nesvitsky, le témoin de Bezoukhov, les conditions du duel. Pierre retourna chez lui tandis que Rostov, Dologoff et Denisov restèrent au club très avant dans la nuit à écouter les bohémiennes et les chanteurs du régiment.
« Ainsi, à demain, à Sokolniki, »
dit Dologoff en prenant congé de Rostov sur le perron.
« Et tu es calme ?»
lui dit Rostov.
« Vois-tu, »
répondit Dologoff,
« je te dirai mon secret en deux mots. Si, la veille d'un duel, tu te mets à écrire ton testament et des lettres larmoyantes à tes parents, si surtout tu penses à la possibilité d'être tué, tu es un imbécile, un homme fini. Si au contraire, tu as la ferme intention de tuer ton adversaire, et cela le plus tôt possible, tout va comme sur des roulettes. Ainsi que me le disait un jour notre chasseur d'ours, comment ne pas en avoir peur de l'ours ? Et pourtant, quand on le voit, on ne craint plus qu'une chose, c'est qu'il ne vous échappe. Eh bien, mon cher, c'est tout juste comme moi. Au revoir, à demain. »
Le lendemain, à 8 heures du matin, Pierre et Nesvitsky, en arrivant au bois de Sokolniki, y trouvèrent Dologoff, Denisov et Rostov. Pierre paraissait complètement indifférent à ce qui allait se passer. On voyait à sa figure fatiguée qu'il avait veillé toute la nuit et ses yeux tremblotaient involontairement à la lumière. Deux questions le préoccupaient exclusivement. La culpabilité de sa femme, qui, pour lui, ne faisait plus de doute, et l'innocence de Dologoff, auquel il reconnaissait le droit de ne pas ménager l'honneur d'un homme qui, après tout, lui était étranger.
« Peut-être en aurais-je fait tout autant, »
se dit Pierre.
« Oui, certainement je l'aurais fait. Mais alors ce duel serait un assassinat. Ou bien je le tuerais, ou bien ce sera lui qui me touchera à la tête, au coude, aux pieds, aux genoux. » Ne pourrais-je donc me cacher et m'enfuir quelque part ?
Et en même temps, il demandait avec un calme qui inspirait le respect à ceux qui l'observaient.
Serons-nous bientôt prêts ?
Après avoir enfoncé les sabres dans la neige, indiqué l'endroit jusqu'où chacun devait marcher et charger les pistolets, Nesvitsky s'approcha de Pierre.
« Je croirais manquer à mon devoir, comte, »
dit-il d'une voix timide.
et je ne justifierai pas la confiance que vous m'avez témoignée et l'honneur que vous m'avez fait en me choisissant comme second, si dans cette minute solennelle je ne vous disais pas toute la vérité. Je ne crois pas que le motif de l'affaire soit assez grave pour verser du sang. Vous avez eu tort, vous vous êtes emporté. Ah oui, c'était bien bête,
dit Pierre.
Dans ce cas, laissez-moi porter vos excuses, et je suis sûr que nos adversaires les accepteront.
Dit Nesvitsky, qui, comme tous ceux qui sont mêlés à des affaires d'honneur, ne prenait la rencontre au sérieux qu'au dernier moment.
Il est plus honorable, comte, d'avouer ses torts que d'en arriver à l'irréparable. Il n'y a pas eu d'offense grave, ni d'un côté ni de l'autre. Permettez-moi. Les paroles sont inutiles,
dit Pierre.
Ça m'est bien égal. Dites-moi seulement de quel côté je dois aller et où je dois tirer.
Il prit le pistolet et, n'en ayant jamais tenu un dans sa vie et ne s'inquiétant guère de l'avouer, il questionna ses témoins sur la façon de presser la détente.
« Ah, c'est ainsi. C'est vrai, je l'avais oublié. Aucune excuse, aucune, décidément. »
répondit Dologoff à Rostov, qui, de son côté, avait essayé une tentative de réconciliation. L'endroit choisi était une petite clairière, dans un bois de pins, couverte de neige à moitié fondue, et à 80 pas de la route où ils avaient laissé leur traîneau. À partir de l'endroit où se tenaient les témoins, jusqu'aux sabres que Nesvitsky et Rostov avaient fichés en terre à 10 pas l'un de l'autre, en guise de barrière, ils avaient laissé des traces sur la neige molle et profonde, en comptant leurs 40 pas qui devaient séparer les adversaires. Il dégelait, et d'humides vapeurs voilaient le paysage au-delà de cette distance. Bien que tout fût prêt depuis 3 minutes, personne ne donnait encore le signal. Tous se taisaient.